Je m'excuse. Après les magnifiques discours que vous venez d'entendre, de ne pas être préparé à vous faire, comme je l'aurais voulu ce soir, un discours de politique générale sur la situation en Suisse. Je n'ai pas été très bien ces derniers jours. Et lorsque, hier au soir, j'ai voulu rassembler quelques-unes de mes idées pour vous dire ce que j'ai sur le cœur, je n'ai rien trouvé à dire. Et vous voudrez bien m'excuser ce soir si je me laisse aller à une improvisation à bâton rompu et si, répondant à quelques allusions, je vous expose très franchement ma manière de voir. Je veux vous dire tout d'abord combien je suis heureux d'assister à cette réunion. Elle représente pour moi le type de ce que nous devrions toujours avoir en Suisse, le contact entre le peuple et ses autorités.
C'est ainsi que s'est exprimé Gustav Adler lorsque, président de la Confédération, il est invité au banquet du cercle libéral-démocratique le Danois. Alors qu'il avait été annoncé absent en raison de son état de santé, la foule, comptant environ 400 personnes, le voyant tout de même arriver, lui fit un accueil triomphal. Cet extrait est un des rares discours dans lequel il parle lui-même de sa santé, de sa fatigue. En ce jour d'avril 1919, ses débuts politiques au Conseil municipal de Colonie puis au Grand Conseil de Genève, près de 50 ans auparavant, lui paraît bien éloigné. Mais sa vision politique est toujours intacte. La défense du libéralisme, l'accroissement des libertés politiques afin que la démocratie triomphe. L'homme d'État doit se mettre au service de son pays. Nous sommes, affirme-t-il, les serviteurs, non les maîtres du pays. Cette maxime qu'il prononça alors qu'il était à la tête du département des finances et présidait le Conseil d'État genevois peut s'appliquer à toute sa carrière politique. À Genève comme à Berne, son accession au pouvoir exécutif fut pensée comme le signal d'un apaisement. En 1917, il devient ainsi l'homme providentiel capable de sortir la Suisse d'une grave crise politique suite à la démission d'un conseiller fédéral ayant trahi la neutralité suisse qui porta son paroxysme la désunion de la population entre une Suisse allemande favorable aux empires centraux et une Suisse romande soutenant les Allemands. Écoutons-le à Genève, le 27 juin 1917, devant une place neuve comble, avec même des grappes d'auditeurs au balcon et sur les toits du Grand Théâtre et du Musée Rath. Il vient d'être élu conseiller fédéral.
Mon élection doit être le signal de l'apaisement. Faites-moi crédit quelque temps. Je sens la responsabilité immense qui pèse sur moi. Si je ne m'étais pas trouvé en présence d'un impérieux devoir, d'un devoir devant lequel un citoyen ne peut se dérober sans manquer à ce qu'il doit à la patrie, j'aurais hésité. Je vais au-devant de ma tâche avec courage, car je me sens soutenu par votre confiance et par votre patriotisme. Les magistrats de la Confédération ne doivent pas s'enfermer dans une tour d'ivoire et se croire infaillibles. Ils doivent rester en contact permanent avec le peuple. C'est votre confiance dont j'ai besoin. Donnez-la-moi tout entière. Vous trouverez en moi un magistrat décidé à travailler à la réalisation de cet idéal de liberté, de droit et de justice qui est la raison même de notre démocratie. Nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a des questions différentes que les questions purement pratiques et que ce qui a fait la force et la grandeur de notre patrie dans le passé, comme cela fera encore sa force et sa grandeur dans l'avenir, c'est son attachement à cet idéal. Restons unis. Je vous promets que je m'emploierai de toutes mes forces à la réalisation de vos justes aspirations. Nous sommes actuellement dans une situation difficile. Nous allons peut-être au-devant de nouvelles épreuves. Cependant, au milieu de la tourmente, la Suisse a été miraculeusement épargnée. Nous sommes privilégiés entre tous. Soyons un peuple de devoir, un peuple de frères unis dans le même amour profond pour la patrie, et la Suisse restera dans l'avenir une nation aimée et respectée de tous, comme elle l'a été dans le passé.
En retraçant la carrière politique et humanitaire si célèbre de Gustave Adolphe, nous oublions souvent qu'il a tout d'abord exercé comme avocat et a œuvré comme homme d'affaires dans les secteurs de la presse, de la banque, de l'industrie et du développement touristique. Ses compétences financières et économiques ont concouru à ce que la Confédération lui confie la direction du Commissariat général suisse de l'Exposition universelle de Paris de 1900. Cette mission de diplomatie économique a eu un impact important dans sa carrière politique nationale et dans son réseau international. Dès lors, il est souvent sollicité comme expert. Le voici en 1905, à l'inauguration de la première exposition nationale suisse de l'automobile et du cycle, dont il est le président d'honneur.
Vous avez été particulièrement bien inspirés, messieurs, en organisant cette première exposition de l'automobile et du cycle. Elle vient à son heure. Tout en effet est intéressant dans le développement inouï de cette industrie née d'hier, qu'on soupçonnait à peine il y a quelques années et qui tient aujourd'hui une place si importante dans nos relations journalières. Deux genres d'obstacles sérieux pourraient entraver les progrès de l'automobilisme en Suisse. D'une part, des réglementations de police trop rigoureuses, des taxes trop élevées, des formalités douanières lentes, gênantes et coûteuses. D'autre part, les imprudences des chauffeurs, la folie de vitesse et le sans-gêne de ceux qui se croient autorisés à accaparer pour eux seuls les routes enveloppées d'épais nuages de poussière sans se soucier des paisibles promeneurs qu'ils exposent à de réels dangers et à de sérieux ennuis. À l'œuvre donc, messieurs les exposants, pour vulgariser toujours plus l'automobile pratique, solide, d'un prix abordable et réalisant tous les perfectionnements qui en rendront l'usage toujours plus acceptable, même à ceux qui en sont encore les adversaires aujourd'hui.
Ayant intégré le comité international de la Croix-Rouge à 25 ans, il s'y consacre avec constance pendant près de 60 ans, jusqu'aux derniers instants de son existence. Dès le début de la guerre, en 1914, il fonde l'Agence internationale des prisonniers de guerre et multiplie ses déplacements en Europe pour visiter les camps de prisonniers, négocier avec les autres organisations humanitaires et les chefs d'État. Invité au début de la guerre par le pasteur de Colonie, le président du CICR témoigne de l'essence même de son action philanthropique et humanitaire, fondée sur ses convictions chrétiennes et sa foi profonde.
Notre excellent pasteur m'a demandé de vous parler ce soir de l'œuvre de la Croix-Rouge. Il a pensé, avec raison, qu'au milieu du terrible orage déchaîné tout autour de nous, alors que tant de familles sont dans l'angoisse et les larmes, alors qu'on se demande parfois si le droit et la justice, la vérité, toutes les conquêtes de la civilisation dont nous étions si fiers, ne sont plus que des illusions trompeuses. Il a donc pensé avec raison qu'il pourrait être bienfaisant et réconfortant de voir qu'il y a encore pourtant dans ce ciel enténébré quelques étoiles qui brillent, éclairant les champs de bataille et de mort de leurs rayons de charité et d'amour. Si j'ai appelé ce soir votre attention sur l'œuvre de la Croix-Rouge, qui, sur les champs de bataille, dans les hôpitaux, les ambulances, dans les dépôts de prisonniers, fait partout respecter et aimer les noms de Genève et de la Suisse, apportant sous l'égide de la croix une parole de charité et d'amour aux malheureuses victimes, leur rappelant que les blessés sont des frères, ayant droit aux mêmes égards, inspirant une profonde sympathie et provoquant souvent de sublimes dévouements, si j'ai appelé ce soir votre attention sur l'œuvre de la Croix-Rouge, ce n'est point pour nous enorgueillir du peu que nous faisons. Bien au contraire, c'est pour nous mettre tous en face de nos responsabilités et de nos devoirs, et pour augmenter en nous le sentiment toujours plus profond de la reconnaissance que nous devons avoir envers celui qui nous a si merveilleusement protégés et bénis.
La nature de l'engagement que Gustave Adolphe exprimera durant toute la guerre et qui deviendra du reste un topo de l'engagement humanitaire de la Suisse repose ainsi sur la conviction que celle-ci a été épargnée grâce à son Sonderfall, à sa neutralité. La Suisse est une île au milieu de la tourmente. Ce privilège implique les responsabilités et les devoirs qui s'expriment non seulement par l'action humanitaire, mais aussi par une responsabilité politique. Ainsi, lorsque le nouveau conseiller fédéral est invité à Genève au bâtiment électoral pour présenter son action à la tête du département politique, c'est-à-dire des affaires étrangères, lors de l'anniversaire de la Restauration genevoise le 30 décembre 1917, il prononce une véritable profession de foi afin que la Suisse puisse apporter sa pierre à la construction d'une paix définitive.
Un jour viendra, Dieu veuille qu'il ne soit pas trop éloigné, où les hostilités ayant pris fin, on cherchera à poser les bases d'une paix définitive, mettant pour toujours le monde à l'abri des ruines auxquelles nous assistons. La voix de la Suisse devra alors se faire entendre, puisse-t-elle ne s'élever que pour la défense de causes justes et nobles. Conservant une foi inébranlable dans la liberté individuelle et la liberté de conscience, phare lumineux qui doit nous guider et nous éclairer. Sans nous laisser absorber par des préoccupations d'ordre matériel, ayant toujours devant les yeux un idéal de liberté, de droit, de justice et de solidarité, nous défendrons le droit des peuples de se prononcer librement sur leur sort.
8 mois plus tard, Gustave Adolphe est à Riffelalp en vacances quand on lui demande de prononcer un discours lors de la cérémonie du 1er août à Zermatt. Il se met au travail. Mais l'épidémie de grippe dite espagnole, qui sévit en Suisse depuis le mois de juillet, s'accroît, si bien que toutes les réunions publiques et festivités sont annulées. Comme le brouillon de ce discours a été conservé dans ce magnifique volume familial, nous avons le privilège d'écouter aujourd'hui pour la première fois un extrait du texte qui avait été préparé par Gustave Adolphe.
Voilà une grande première pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Et pour moi aussi. Les cloches de nos églises qui, dans nos villes, nos villages, nos campagnes, nos vallées les plus reculées se sont fait entendre ce soir, doivent résonner dans le cœur de notre peuple, tout à la fois comme un hymne à sa reconnaissance et comme un solennel avertissement. Nous serions en effet 1000 fois des ingrats si nous ne sentions pas combien notre bien-aimée patrie a été providentiellement épargnée. Et si nous n'élevions pas nos pensées et nos cœurs en haut pour rendre grâce à celui de qui nous tenons tous les biens dont nous sommes comblés. Au milieu de l'effroyable tourmente qui accumule tant de haine, fait couler des torrents de sang, plonge des familles et des territoires immenses dans les larmes et le deuil, nous continuons à jouir des bienfaits de la paix. Nous ne serons jamais assez reconnaissants pour cet immense privilège. Et jamais nous ne comprendrons assez les responsabilités et les devoirs qui en découlent pour tous.
À la fin de la guerre, Gustave Adolphe mène les négociations à la Conférence de la paix de Paris en tant que président de la Confédération afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse dans la reconstruction de l'Europe et de permettre l'entrée de la Confédération dans la société des nations, tout en conservant sa neutralité. Arrivant de justesse à convaincre les alliés du concept de neutralité différentielle, il sauve la situation, tout en s'assurant que le siège de la SDN soit offert à Genève. Mais le combat pour l'accession de la Suisse à la SDN continue, tout d'abord au champ fédéral, puis devant le peuple. Voici en extrait le discours qu'il a préparé pour le Conseil national en novembre 1919.
La Société des Nations se propose un but magnifique. C'est la confédération des États, de toutes les patries. C'est le prolongement de notre confédération suisse pour assurer au monde la paix après laquelle il aspire. C'est un superbe idéal qu'elle cherche à réaliser, dont elle pose les bases essentielles. C'est un édifice pour la construction duquel elle fait appel au concours de tous les peuples. La Suisse se doit à elle-même, à son passé, à son idéal, de s'associer sans hésiter à cette œuvre de progrès qui réalise un sérieux effort vers la concorde et la justice, dans une sainte alliance contre le fléau de la guerre. Sans doute, il y a des lacunes et des défectuosités dans le pacte, mais c'est un point de départ. Ce projet est susceptible d'amélioration. A-t-on jamais fait quelque chose de parfait de prime abord? Au lieu de grossir à plaisir les quelques points noirs, n'est-il pas bien mieux dans notre intérêt de voir la grandeur du but qu'on veut atteindre et de concourir de toutes nos forces à sa réalisation? L'avenir n'est plus au scepticisme railleur et décourageant. Il est aux hommes de cœur, de foi et de confiance qui veulent travailler tous ensemble à solutionner par des accords internationaux tous les grands problèmes de l'heure actuelle. Rien de grand et de beau ne se réalise sans un peu d'enthousiasme, de chaleur de cœur et d'optimisme.
Au début des années 20, les organisations humanitaires et la Société des Nations doivent faire face aux besoins croissants à l'est de l'Europe, suite au retour très lent des prisonniers de guerre, aux réfugiés russes poussés à l'exil par la révolution bolchevique, la guerre civile et les épidémies, ainsi qu'au déplacement de population. Une grande famine survient au printemps 1921 dans les vastes plaines ukrainiennes et russes. Le 15 août 1921, Gustave Adolphe convoque à la salle centrale à Genève une grande conférence organisée par une commission mixte du CICR et de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Ensemble, les membres présents, délégués des sociétés nationales, représentants de nombreuses organisations humanitaires et caritatives, diplomates, vont devoir prendre les décisions nécessaires pour organiser avec pragmatisme l'aide humanitaire.
L'heure est donc venue d'agir. Il ne s'agit plus de parler. Il est nécessaire qu'une intervention prompte et énergique permettent d'apporter, dans la mesure du possible, un soulagement quelconque aux populations qui souffrent si cruellement et dont les souffrances vont chaque jour en augmentant dans le lamentable état dans lequel se trouve le grand pays de Russie. Mais comment agir promptement et utilement? C'est là, mesdames et messieurs, le problème que vous avez à résoudre. La Croix-Rouge, qui doit son influence, son prestige à l'autorité morale dont elle jouit, à son entière neutralité, à son impartialité politique, à son haut idéal de charité et d'entraide humanitaire, la Croix-Rouge n'a pas à rechercher les causes et les motifs de la misère dans laquelle la Russie est plongée.
Nous allons terminer le florilège de ce soir par une péroraison emplie d'espoir d'un discours prononcé en tant que conseiller fédéral le 28 février 1918 au cercle libéral de Neuchâtel.
Je ne veux pas vous laisser sous une impression de découragement et de tristesse. Bien au contraire. C'est par une parole de confiance que je veux terminer. J'ai une absolue confiance dans le triomphe final des idées de liberté, de justice et de fraternité sociale. Je crois au bon sens de notre peuple qui saura résister à la propagande d'idées qui répugne à son robuste bon sens. Je crois de toutes mes forces à un avenir meilleur. Travaillons tous ensemble à sa réalisation. Puisse notre patrie tenir dans cette société de demain une place honorable entre toutes.